Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Quelque part sur les bords du lac, avec une vue incroyable, Marion Chesneau-Dupuis. Je suis là pour un enregistrement, l'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est cette notion d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde à travers des parcours d'expérience des gens que je peux rencontrer sur la route ou en voyage. Marion, toi, j'ai entendu parler de toi il y a quelques années quand je faisais une traversée de l'Himalaya, avec un projet qui s'appelait La Caravane Amoureuse, avec un pianiste Marc Vela. On partait au Tibet pour amener un piano à queue dans l'idée de faire une invasion amoureuse du monde. Le projet un peu fou était de poser un piano devant le Potala et faire un concert. Bon, le projet s'est pas déroulé comme prévu, comme souvent dans des projets un peu fous comme celui-là. Mais néanmoins, j'avais ton contact qui m'avait été donné par deux photographes, Olivier Folmy et Jean-Marie Hulot. Et je pense que tu avais plus ou moins coordonné leur voyage au Mont Kailash, suite à quoi j'ai plus entendu parler de toi. Et cet été, dans une ressourcerie, du côté du Vigan, je tombe sur un bouquin qui était là. Je me suis dit « Waouh, génial, respire, tu es vivante, Marion Chesneau-Dupuis ». Je lis ce qui est écrit derrière, je me dis extraordinaire, et il m'a accompagné pendant tout cet été dans mon camion à la découverte des éco-villages. Je me régalais le soir à lire quelques pages de ton bouquin et je me suis dit, auditeur, il faut absolument partager avec toi cette expérience de vie, cette aventure, celle de Marion Chesneau-Dupuis qui a commencé, je crois, à Calcutta, si je me souviens bien. Marion, on va revenir en arrière à cette époque, quand tu es encore en France, et savoir ce qui fait que tu as eu cette envie d'aller voir ce qui se passait au-delà de toi, au-delà des frontières, au-delà du connu.
Et ouais, j'ai une petite adolescente qui aimait bien faire la fête, et qui avait fait une école de cirque, qui était en fait en collège et lycée avec sa meilleure amie Anna, qui était anglaise, qui est une fille du docteur Jack Prager, un médecin des rues dans Calcutta. Et toutes les deux, on décide d'aller à la rencontre de Jack pour découvrir son univers, ce qu'il est aussi, hein. Et s'inspirer de cette rencontre pour mon amie qui est sa fille, de rencontrer un peu ce modèle de père, et puis pour moi de rencontrer un modèle d'une personne qui est complètement dédiée aux autres. Donc on part toutes les deux, on a 16 ans,
donc le premier voyage, quand tu quittes pour la première fois la France, tu pars seule avec une amie à l'âge de 16 ans, direction Calcutta.
Ouais, on arrive dans les bidonvilles directement, parce que c'est là où travaille Jack, dans les quartiers où il n'y a pas de clinique, où il n'y a pas de soins de santé, donc les plus pauvres la population de Calcutta, qui reçoit des soins gratuitement sous ces bâches en plastique qui sont installées chaque jour sur les trottoirs. Et avec la mousson, c'est difficile, les conditions sont extrêmes. Les docteurs indiens reçoivent donc des centaines de patients chaque jour. Il y a la queue et que ça dure toute la journée pour recevoir des médicaments et consultations. Et je suis hyper touchée, en fait. Je découvre à la fois la puissance d'une vérité qui est dans la pauvreté et la souffrance du fait de la grande misère et de pas avoir de soins de santé et de pas avoir de quoi manger. Et en même temps, cette dignité, cette force intérieure que je découvre dans le regard des patients qui passent leur journée sur le trottoir, et aussi dans l'humanité des docteurs qui les reçoivent. Je sens une compassion, en fait, qui est joyeuse, qui est sans effort, qui est dans la vie, en fait, où tout circule, en fait, autour d'eux. Ça, il y a pas d'ordre, c'est chaotique, mais ils sont dans ce mouvement et ils restent ancrés, ils sont là, alors que ça dure des heures et des heures et des heures. Ils reçoivent des patients, on les a à la file. Et je découvre en fait une force qui va au-delà de la souffrance, de cette grande misère, qui est plus reliée à l'action en fait de venir soulager cette souffrance, qui est aussi la compassion. Mais au départ, je sais pas en fait que c'est la compassion. Mais je sens que quand je reviens en Europe, c'est le chemin que je veux explorer. Donc je pars à la recherche. Quand je suis en Dordogne, retour chez mes parents, je cherche en fait des guides ou des enseignements.
Donc à l'âge de 16 ans déjà, ce voyage initiatique dans les rues de Calcutta, où tu as découvert cette bienveillance, cette compassion dont tu parles, donc tu savais à ce moment-là que c'était ça, ta voix, ta lumière intérieure.
C'est ça, je découvre qu'il y a un chemin en fait dans cette rencontre avec la souffrance et dans cette capacité à garder en fait des ressources intérieures suffisamment, on va dire, émergentes, jaillissantes au fil en fait des jours et des gens qui viennent à eux et qui elles s'épuisent pas en fait cette source de bienveillance. Et je me demande en fait comment eux ils ont réussi à la laisser jaillir. Comment ils ont dédié leur vie avec cette force d'engagement. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des traditions orientales qui nous apprennent, nous les humains, à cultiver finalement cette posture intérieure. Et qui, c'est assez subtil, c'est assez précis. Donc c'est un chemin graduel en fait, pour petit à petit découvrir là où justement nos schémas intérieurs nous pousseraient à plutôt se refermer ou à... Voilà, penser que je n'aurais pas forcément les ressources pour moi, donc comment je pourrais avoir les ressources pour l'autre, et comment en fait cette division entre moi et l'autre me contraint finalement à faire des calculs ou des manipulations un peu pour voilà, chercher à tirer un peu de mon côté ce qui est bon pour moi et laisser plus aller vers l'autre ce qui m'est plus désagréable. Donc en fait, tous ces schémas-là, je me rends compte que oui, ils sont là, mais ils ne sont pas inéluctables. Qu'en fait, avec un entraînement de l'esprit, et ça, les traditions orientales peuvent les apporter, je peux transformer mes manières de penser, mes manières de voir le monde, mes manières de voir l'autre. Et donc, bah, je cherche des écoles pour m'apprendre ça. Mais je découvre qu'en Europe, je ne vais pas les trouver si facilement. Alors, je cherchais, hein, de 16 ans à 18 ans, j'étais complètement concentrée sur rechercher des maîtres et des centres spirituels, et je n'ai pas trouvé le lieu qui m'a permis de trouver ça.
Mais tu aurais très bien pu, à 16 ans, force de cette expérience sûrement difficile, te réfugier dans l'ignorance, dans le confort matériel. Qu'est-ce qui fait que toi, à ce jeune âge, adolescente, non, tu te retrouves dans une quête qui est une quête bien plus profonde que celle qu'on peut nourrir dans son quotidien?
Oui, alors là, il n'y avait plus de retour en arrière possible après ce que j'ai vécu à Calcutta, où j'ai senti qu'en fait, il y avait une force au-delà de cette condition matérielle qui en Occident, est une vision assez réductrice finalement de notre bien-être, de chercher un confort matériel pour accéder à notre bien-être. Mais quand je vois que, ben, à Calcutta, ben, sur les trottoirs autour des bidonvilles, tout ça, c'est pas le cas. En fait, il y a une autre manière de vivre. Après, il y a plus de retour en arrière. Mais aussi, ce non-retour en arrière, il a été facilité par le fait que j'ai grandi dans une famille dans la campagne avec des conditions de vie simples. C'est-à-dire que, ben, on était chauffé à la maison, mais c'était pas non plus, c'était le feu, quoi, le feu de la cheminée ou la cuisinière, hein, pour cuisiner. Et puis, on ramassait ce qu'il y avait dans les bois pour manger. Il y avait des chasseurs qui passaient, qui déposaient du gibier. Mon père était taxidermiste à l'époque. Donc, c'était une manière, voilà, de manger. On allait à l'école, mais on n'était vraiment pas branchés sur des vies, on va dire, classiques, de se comparer aux autres, d'avoir les meilleurs habits. Bon, à l'adolescence un petit peu, mais c'est vite passé quand même. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Déjà une forme de sobriété hein, dans ce mode de vie rural, dans cette ruralité que tu expérimentais adolescente. Donc Marion, tu pars à Calcutta, tu reviens et tu décides de chercher un maître.
Oui, et ma démarche, elle est ancrée quand même dans le cœur, dans mes ressentis, plutôt que dans des recherches plus intellectuelles. C'est par la voie de la dévotion en fait que j'ai rencontré. Alors dans un premier temps, j'ai rencontré des grands maîtres comme Ama, le Dalai Lama, et puis finalement, je me suis arrêtée sur un maître qui était pour qui il y a eu une certitude, une confiance inouïe. Comme si c'était lui et une évidence. Et donc c'est Boka Rinpoche, un maître exilé du Tibet, qui est un nomade de la région du Mont Kailash, qui était parti en 1959 pour échapper donc à l'armée révolutionnaire chinoise qui arrivait jusque dans son monastère. Et il avait fait reconstruire un monastère à côté de Darjeeling avec des moines et un centre de retraite pour devenir lama. Et donc je lui ai demandé la permission quand j'avais 18 ans, donc c'était en 1998, de résider donc à côté du monastère et d'en recevoir ses enseignements et de les pratiquer au jour le jour avec un contact ou en tout cas des échanges réguliers avec lui. Et il a accepté.
Avant d'aller plus loin dans cet enseignement, dans cette étape de ta vie, parce qu'on verra dans l'émission qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu plein d'étapes, là on est en Inde, côté du Darjeeling, hein, où tu cherches ce maître que tu reconnais en la personne de Rinpoche, Boka Rinpoche. Mais avant tout ce périple en Orient, en Inde, est-ce que tu étais dans ta famille, à travers ton background culturel, déjà habitué à tout ce qui était méditation, tout ce qui était introspection, tout ce qui était compassion, les valeurs du bouddhisme, c'est vraiment quelque chose que tu as découvert dans ce premier voyage à Calcutta?
Alors, je l'ai découvert à Calcutta. Et après, petit à petit, ma famille, mes parents notamment, sont aussi intéressés à mes lectures. Donc on a cheminé ensemble pour... Mais ça, c'est bien plus tard, en fait. Petit à petit, avec ma grand-mère aussi, on avait des échanges. Elle est catholique, elle était catholique, et on avait des échanges sur nos spiritualités respectives, et c'était très enrichissant. Mais sinon, non, le point de départ, ça a vraiment été, pour moi, seule à Calcutta, face à cette grande pauvreté sur les bidonvilles...
Donc 18 ans, tu te retrouves à Darjeeling.
Voilà, donc après donc cette passage à Calcutta, je suis encore entre voilà, l'école de cirque, je l'ai laissée derrière parce que ça c'était ma vie en France. Et j'ai continué d'être bénévole à Calcutta dans une clinique qui soigne la lèpre et je faisais des allers-retours à Mirik pendant 6 mois, les 6 premiers mois pour recevoir les enseignements de Boka Rinpoche. Et puis, je lui ai demandé, en fait, s'il était d'accord donc, que je rentre dans son monastère pour, en fait, stabiliser ma motivation, renforcer ma motivation de venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Mais par les enseignements du bouddhisme, qui est de la compassion, qui est donc un entraînement, qui un apprentissage. Et donc, de recevoir ces enseignements pour ensuite pouvoir repartir en tant que travailleuse sociale, là où ce serait utile. Et c'est au bout de 4 ans, en fait, presque 4 ans, que cette nouvelle étape a eu lieu. En fait, c'est qu'à l'issue de ces années de monastère, d'études bouddhistes et de pratiques bouddhistes, bien, en fait, il a émis un souhait, contribue que je parte aider à mettre en place un projet auprès du Mont Kailash, au Tibet, auprès des populations nomades, et il veut en fait les aider à construire une école ou enfin un système d'éducation qui leur permettrait en fait de mieux intégrer la modernité sans complètement perdre leurs valeurs traditionnelles. Donc là, il y a toute une vision en fait de projet qui naît à ce moment-là, c'est en 2002, et je pars au Tibet pour le réaliser.
On va pas mal parler du Tibet aussi dans cette émission radio avec toi, Marion. Mais là, ce que j'observe ou ce que j'entends, c'est que finalement, ce que j'observe autour de moi, c'est cette notion de sens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans cette quête de sens, dans cette quête d'existence. Toi, très jeune, finalement, tu as mis cette quête, cette recherche de ce sens dans ta vie. Tu l'as trouvé. En tout cas, tu t'es mis en route pour le trouver. Tu as cherché un maître. Quel conseil tu as envie de donner à tous ceux qui en sont là aussi à cette envie de trouver un maître? Parce que beaucoup de gens recherchent une personne inspirante, un livre inspirant ou un maître pour suivre un enseignement. Il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et oui, justement, c'est la multitude qui est à la fois extrêmement riche et qui est si importante parce que la diversité de nos perception du monde et chaque personne, chaque individu est vraiment unique en ça qu'il a ses particularités et sa personnalité qui rend unique. Mais donc je sais bien qu'il y ait des maîtres qui répondent à toutes ces différentes aspirations et particularités et donc une multitude de maîtres. Par contre, quand il s'agit de commencer à vraiment pratiquer dans une tradition et de passer des couches plus superficielles de notre personnalité ou de nos particularités individuelles pour arriver à des couches plus profondes ce qui est moins palpable, moins tangible. Cet accès-là, je pense qu'il est possible qu'en étant relié à un type d'enseignement qu'on fait continuellement en fait dans une persévérance et une constance, ça va être en lien avec un maître et s'aligner, aligner de ce maître et de rester. En fait, c'est comme quand on met une casserole d'eau pour faire bouillir l'eau. En fait, si on change tout le temps en fait de la casserole d'un truc de gaz à un autre, en fait, c'est qu'on a re-attend à chaque fois que l'eau chauffe pour elle va pas vraiment bouillir, en fait, elle va rester tiédasse. Et alors que c'est grâce à cet effet, en fait, continu, toujours avec le même enseignement, toujours avec la même pratique, qu'en fait, ça fait comme une foreuse qui creuse de plus en plus profond dans les couches et les profondeurs, en fait, de notre être, du plus superficiel au plus profond. Et seulement, en fait, à partir de cette continuité, va pouvoir en fait émerger ou jaillir la source de l'être profond qui elle est universelle, n'a plus besoin d'avoir qui s'appelle Ama ou qui s'appelle Dalai Lama ou qui s'appelle Jésus, enfin peu importe après la source de l'enseignement, parce que finalement c'est une source qu'on a découvert en soi. Voilà, mais c'est quand même un travail qui prend beaucoup de temps, et avoir un guide c'est absolument indispensable. Parce que voilà, le mental et les constructions de nos personnalités sont là toujours pour essayer de récupérer en fait des sortes d'acquisitions de connaissances ou de moi spirituel qui vont forcément se cristalliser, se solidifier à un moment donné. Mais il faut qu'il y ait un miroir d'un maître pour nous montrer en fait, nous faire reconnaître dans ce reflet du miroir que c'est pas ce qu'on est en train de chercher, qu'on est juste en train de créer quelque chose de une sophistication qu'on colle en fait à notre être profond. Et ça vraiment c'est le travail du maître. Et c'est parfois c'est difficile parce que le maître il va avoir des comportements justement qui va toucher, ou même dans le bouddhisme tibétain, même parfois ça a des aspects courroucés de colère, ou ça peut devenir même des aspects violents en fait mais par compassion, va en fait briser là où la carapace ou là où le masque s'est solidifié. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait cette énergie et cette force d'intégrité et de force de compassion telle que ça va briser la fausse identité. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Marion, qu'est-ce que c'est qu'un maître?
Un maître, c'est d'abord un... grande compassion, c'est-à-dire quelqu'un qui justement ne cherche plus à exister dans ce monde ou pour les autres, pour lui-même, qui a dépassé justement cette vision de moi et l'autre, et qui donc est au service en fait de tout ce qui vient à lui, la vie, du vivant, enfin de l'autre, des humains qui viennent à lui, et qui, sans attendre quoi que ce soit ou chercher quoi que ce soit, en fait, prend ce qui vient à lui, avec donc souvent ce qui vient à lui, c'est quand même de la souffrance, hein, parce que on est quand même dans un monde de souffrance, donc généralement, quand quelqu'un vient à un maître spirituel, c'est avec tout son bagage du passé qu'il encombre. Et ce maître, il rentre en contact avec tout ça, depuis son cœur et de compassion, et il aide en fait à enclencher la transformation intérieure. Et cette transformation, elle devient tellement visible, vibrante ou palpable pour la personne qu'en fait, c'est inspirant. Et du coup, ça le met en mouvement pour lui-même après continuer. Et après, c'est un maître, c'est quelqu'un qui donne les moyens à son étudiant de rester en autonomie par rapport à sa transformation intérieure et de développer de plus en plus ses propres ressources, notamment de compassion et envers soi-même et de discernement, de lucidité envers ses fausses identités, etc., pour savoir naviguer dans ce paysage intérieur assez chaotique au départ du chemin, par soi-même.
Il y a certains termes qui reviennent dans ce que tu dis. J'aimerais que tu poses pour toi, auditeur, ou pour vous, auditeur, une définition ou ta définition de la compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion ? Et un autre mot que tu utilises aussi, alors pour ceux qui s'intéressent au bouddhisme, le mot souffrance, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais pour ceux qui ne sont pas dans cette mouvance-là, qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Pourquoi tu parles de souffrance et de compassion ?
Alors c'est vrai que c'est mieux de commencer par la souffrance, puisque c'est le point de départ. Déjà, bon, sur le plan classique des enseignements, c'est la première vérité que le Bouddha a enseignée, la vérité de la souffrance. Et la souffrance, dans sa définition, c'est plutôt un état d'insatisfaction chronique. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, en fait, j'aimerais bien que ce soit autre chose. Ou alors c'est jamais assez, ou c'est pas parfait. Ou bien, voilà, c'est pas comme je l'avais projeté, etc. Donc c'est une forme de... C'est un décalage entre ce que, en fait, généralement le mental ou les pensées se forgent comme idée d'une réalité qu'il aimerait, et la réalité telle qu'elle est. Et cette réalité telle qu'elle est, elle a rien de bon ou mauvais en soi. Simplement, voilà, il n'y a pas de contrôle dessus, en fait, et elle change tout le temps. Donc, c'est cette rencontre, en fait, avec une réalité qui n'est pas saisissable et qu'on ne peut pas contrôler, et le mental qui veut, en fait, faire quelque chose de ça, qui crée, en fait, un décalage et une sorte d'insatisfaction qui, si on n'y porte pas attention, peut, en fait, voiler la saveur ou le goût ou l'expérience de ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc ça c'est la définition de la souffrance, qu'on peut après associer au stress, parce que le stress, voilà, c'est quand on n'a pas suffisamment de ressources en nous pour faire face à une situation qui n'est pas comme on voudrait, voilà, qui mène jusqu'à après aussi le burn-out, la dépression, voilà, et bien d'autres mots. Et donc,
après, il y a aussi cette notion d'identifier les causes de la souffrance, mais on ne va pas en parler, on ne va pas rentrer dans la philosophie du bouddhisme, c'est plutôt vraiment ton parcours qui m'intéresse. Donc on parlera aussi après tout ce que tu as pu faire au Tibet. Mais oui, la compassion, c'est quoi ?
Alors justement, voilà, en partant de cette souffrance, la compassion, donc il y a la compassion envers l'autre, pour commencer, qui est donc une manière de rentrer en relation, qui part en fait d'une résonance avec ce que vit l'autre. Donc je ressens l'émotion difficile de l'autre, son stress, enfin ce qui peut être difficile au niveau psychologique ou physique de cette personne. Et je me relie à une source en moi qui est d'amour, de chaleur, d'ouverture, de mouvement vers d'actif, de souhait en fait de venir en aide. Donc dans le souhait, en fait, il y a déjà un espoir et une ouverture à une autre réponse que celle de rester dans la souffrance. mais plutôt de pouvoir faire un choix de retrouver en fait une situation plus agréable. Donc ça, c'est la dimension plus active en fait de la compassion qui, au-delà du fait d'être en résonance avec ce que vit l'autre, je me mets en mouvement intérieurement pour déployer des ressources à l'intérieur de moi qui vont être après contagieux pour donner des ressources à l'autre, pour le mettre en mouvement vers un état de mieux-être.
Ce que je trouve assez incroyable, c'est que l'aventure commence à 16 ans dans les bidonvilles de Calcutta à observer la misère. Et là, tu te retrouves des années plus tard dans l'Himalaya, puis sur le toit du monde et maintenant sur le sommet de l'Everest. Et tu t'arrêtes pas là parce que après tu as envie de toujours dans ce souci d'écologie, de réduction de son empreinte, de son impact. Donc créer un label Clean My Everest.
Clean Everest. Ouais, c'est l'école de guide de montagne hein, quand ils m'ont fait venir donc en 2012 et puis après en 2013 sur l'Everest avec eux pour faire un diagnostic des problèmes de pollution sur cette montagne en particulier puis après aussi sur d'autres montagnes des 8000 au Tibet. Que donc ensemble à l'école de montagne, on a réfléchi à une charte environnementale entre 2013 et 2016. Donc j'ai fait intervenir des tas d'experts en fait tibétains sur la culture tibétaine pour montrer comment en fait la culture et la préservation de l'environnement n'étaient pas séparées dans la vision bouddhiste et tibétaine de la montagne et la vision de l'homme en harmonie avec la nature. Et ces différents intervenants étrangers aussi et tibétains ont permis donc d'inspirer et d'impulser un mouvement en fait de protection donc de la montagne, de garder l'Everest pur, avec sous la forme donc d'une charte environnementale qui est devenue après le label Clean Everest. Donc le label, c'est parce que ça nous permettait en fait de non seulement proposer ces grandes lignes de la charte à toutes les expéditions internationales qui venaient, mais aussi après de les auditer et d'avoir un contrôle continu. Et d'impliquer après des autorités locales et des guides tibétains qui vont tous les ans sur la montagne.
Marion, sur la table, un bouquin, Respire, tu es vivante, de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle. Donc ça, ce bouquin, j'imagine qu'il il a été écrit ici, à ton retour du Tibet.
Ouais, c'est ça, j'avais beaucoup de mal à écrire ce livre en étant à Lhasa. Et effectivement, là, dès que je suis arrivée ici en Suisse, je me suis réfugiée dans un chalet dans la montagne. Et j'ai fini d'écrire en quelques mois ce livre qui a été publié en octobre 2020.
Donc ce bouquin reprend un peu toute cette aventure que tu viens de nous livrer dans le micro. Hein, on y parle de ton aventure familiale à 16 ans, ce contexte dans lequel tu as grandi, puis ce premier voyage à Calcutta, cette quête spirituelle, ces années passées en tant que retraite non bouddhiste auprès du maître Boka Rinpoche, pour finalement te retrouver au Tibet. À œuvrer pour la population nomade tout en organisant des treks pour les occidentaux pour finalement devenir alpiniste, t'impliquer sur cette cause écologique et revenir ici sur le lac. Tu lèves le doigt, j'oublie quoi?
Oui, en fait, je voudrais quand même aussi boucler mon parcours de vie au Tibet sur la question des nomades, parce qu'en fait, le grand projet qui m'anime aujourd'hui, c'est pas les déchets sur l'Everest, hein, c'est la création d'un institut des nomades qui a pris naissance en 2013 et qui aujourd'hui maintenant est bien établi. Depuis 2019-2020, il est entièrement construit, il est déjà en activité. C'est un lieu donc dans le Shinghai, le Tibet du nord-est, où il y a énormément de nomades qui vivent là. Et c'est un lieu qui a été choisi parce qu'il y a une grande liberté au niveau culturel et écologique. Donc c'est une sorte d'incubateur hein, à la fois pour les entrepreneurs tibétains nomades qui veulent garder les savoirs traditionnels en ayant des apports scientifiques qui leur permettent aussi de valider un certain nombre de bonnes pratiques de leur vie nomade, pasteur nomade sur la steppe. Et voilà, de transmettre toute cette connaissance aux générations futures pour pas justement que ce mode de vie nomade soit complètement dilué dans la modernité.
Marion, merci, je te laisse, je sais que tu as du boulot qui suit, mais en tout cas merci, le bouquin Respire, tu es vivante, publié Masso, aux éditions Masso, pour revenir un petit peu sur cette aventure un peu hors norme où tu auras passé finalement plus de temps à l'international qu'en France quasiment.
Ouais, là j'ai 41 ans et effectivement j'ai passé 22 ans au Tibet essentiellement, mais à Darjeeling.
Merci Marion.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.